Le débat africain. Alain Foucault.
Qui pour succéder à Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football? À quelques semaines de la date du scrutin du 12 mars à Rabat, au Maroc, la tension autour des candidatures est aussi intense que le ballet diplomatique auquel se livrent les potentiels candidats. Avec un point d'orgue, l'ingérence de la FIFA qui sur ce coup suscite l'ire de nombreux Africains. C'est également le moment pour de nombreux spécialistes et acteurs du football de s'interroger sur la stratégie ou la politique à adopter pour en finir avec les scandales à répétition qui éclaboussent la confédération et la gouvernance à adopter pour que l'Afrique cesse d'être seulement le fournisseur de muscles pour les championnats européens et du Golfe Persique. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux futures élections du président à la CAF avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Philippe Doucet, journaliste sportif reconnu en France et en Afrique sur Canal+, notamment. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Alain.
Notre second invité est un autre confrère bien connu sur notre antenne, J. Rémy Ngono, chroniqueur sportif que l'on retrouve régulièrement dans le Café des Sports sur Radio Foot International avec Annie Gasnier. Bonjour J. Rémy Ngono.
Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs.
Notre troisième invité est aussi en direct de Paris. Alexis Biébo est journaliste sportif. Il vient de commettre un article dans le quotidien Le Monde consacré justement à la Confédération africaine de football. Bonjour Alexis Biébo.
Oui, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Notre quatrième invité est en direct de Ouagadougou, en Mauritanie. Ouagadougou est l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football et coordinateur général de la Fédération marocaine, Fédération royale marocaine de football. Bonjour Ouagadougou.
Bonjour Alain, bonjour messieurs et bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors nous sommes à moins de 3 semaines de l'élection du futur président de la CAF puisque le scrutin est prévu pour le 12 mars prochain à Rabat. Et pourtant on ne sait toujours pas qui seront définitivement les candidats. On ne parle que des scandales, des suspensions de tel ou tel membre, des décisions du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui rétablit provisoirement certains et des tractations souterraines pour faire passer des proches, des pressions exercées sur les présidents des fédérations qui vont voter. Est-ce tenable cette date du 12 mars? Doit-on repartir pour un nouveau mandat dans le même climat? Ouagadougou, vous qui connaissez bien cette maison CAF?
Oui, pour moi, je pense qu'on repartira au contraire dans un nouvel épisode qui sera, pour moi, je suis de nature optimiste, bien meilleur que celui qui se finit actuellement. En tout cas, dans le climat, comme vous l'avez bien dit, donc on est dans un climat aujourd'hui, on aimerait voir plutôt des programmes, des différents candidats, des candidats de qualité, mais on est plutôt dans des polémiques, à mon avis, qui sont stériles et qui ne rendent pas service aujourd'hui et qui ne redonnent pas espoir au développement du futur football africain. Mais je suis parfaitement optimiste par rapport à la suite, car je crois que dans le dernier carré aujourd'hui, la dernière ligne droite, nous aurons à pouvoir comparer, à discuter des programmes de chacun des candidats.
Alors, on disait déjà ça il y a quelques années, lorsque il y avait élection entre Ahmad Ahmad et l'ancien président Issa Hayatou. On se disait, c'est une nouvelle ère qui commence. Or, on a l'impression que les choses se sont plutôt aggravées. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers, puisqu'on sait qu'il y a des tractations, c'est les mêmes qui reviennent? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse se dire, voilà, c'est une nouvelle ère qui vous rend optimiste?
Ce qui me rend optimiste, c'est déjà le nombre du temps de M. Hayatou. On se rappelle tous qu'on était pratiquement quasiment dans les candidatures uniques. On est passé à une ère où il y a eu la candidature du président Ahmed Ahmed. Et aujourd'hui, on passe à 4 candidatures, ce qui reflète que les positions aujourd'hui diffèrent. Les gens ont plus l'audace de venir se présenter, de venir proposer des programmes du nouveau sang au niveau de la CAF. C'est ce qui me laisse aujourd'hui très optimiste par rapport à la suite des événements.
Alors là, je vais me tourner vers Philippe Doucet. Vous partagez le même optimisme, vous qui connaissez cet environnement?
Oui, partiellement, pour la même raison d'ailleurs que Ouagadougou, dans le sens où le fait qu'il y ait une multiplicité de candidatures, même si on peut avoir des doutes éventuels sur le fait qu'on finisse avec 4 candidats, voire 5 d'ailleurs, puisque Ahmad Ahmad n'est pas officiellement... écarté. Malgré tout, je pense que c'est un critère plutôt optimiste, c'est plutôt une bonne nouvelle, car on risque, je dis bien, d'avoir un peu plus d'idées apportées pendant cette campagne. Et puis, je pense surtout que, j'espère en tout cas, qu'on est bien conscient, parce que parfois on s'en défend, mais qu'on est bien conscient que ce dernier mandat a été... une extrême difficulté pour la CAF, qu'il a plongé la CAF dans une telle difficulté à la fois en termes d'image, mais surtout financière, que j'ose espérer qu'il y aura une véritable réaction de la part de tous les dirigeants.
Oui, mais lorsque vous écoutez une élection qui se tient dans 3 semaines où on ne sait pas qui seront vraiment les candidats, est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose encore de, on va dire, de chaotique, qui ne va pas donner des résultats qui soient positifs pour le football africain? À 3 semaines, on ne sait pas qui sera candidat totalement. Et on ne discute que de l'ingérence de la FIFA dans cette élection.
Alors, normalement, là, même s'il y a l'ingérence de la FIFA, ça n'empêchera pas plusieurs candidats de se présenter, puisque on sait que la FIFA serait assez proche de 2 candidats, que les 2 autres ont des velléités également. Donc, sauf alliance, on arrivera à 3, peut-être 4 candidatures jusqu'au bout. Et en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un critère un petit peu de confusion, le fait qu'il y ait surtout eu ces confusions au niveau de la commission de gouvernance, du COMEX, de la CAF parallèlement, etc., qui fait qu'on a des avis différents, de la commission d'éthique de la FIFA qui intervient également. Ça, c'est confusant, oui, c'est vrai quand même. C'est un critère confusant. Ouais.
C'est un critère confusant qui donne l'impression que rien n'a changé véritablement. Et je pense qu'Alexis Bibo est de ceux qui pensent la même chose, qui se disent, est-ce que l'intervention de la FIFA à l'intérieur, là vous venez de parler de 2 candidats qui sont acquis à la FIFA, on va donner les noms, celui de Mauritanie, Ahmed Yahia, et celui d'Afrique du Sud, Patrice Motsepe, est-ce que cela ne vient pas un peu rendre la situation plus confuse encore, Alexis Bibo?
En 2017, la FIFA s'était déjà mêlée de l'élection. Elle avait ouvertement. En tout cas, elle avait soutenu
Ahmad Ahmad.
Mm-hmm. Voilà. D'ailleurs, des dirigeants africains s'étaient à l'époque émus de cette situation en envoyant des documents à une commission de contrôle éthique de la FIFA. Une enquête avait été diligentée. Elle n'était pas allée plus loin. Donc, que la FIFA se mêle d'assez près de l'élection à la CAF, sincèrement, ça n'a rien de nouveau.
Mais ça n'est pas normal.
Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense pas qu'elle se permettra la même chose pour l'élection de la CONMEBOL ou de l'UEFA. Mmh. Ou en tout cas, le ferait peut-être beaucoup plus discrètement. Mmh.
L'Union européenne, enfin.
Oui, voilà.
La fédération européenne.
Voilà, je pense que l'UEFA l'accepterait moins. Maintenant, voilà, on dit que Gianni Infantino a deux favoris, entre guillemets, c'est-à-dire Patrice Motsepe et Ahmed Yahia, le candidat mauritanien. Alors, c'est un avis assez largement partagé par tous les acteurs du football africain avec qui j'ai pu m'entretenir. Je ne pense pas non plus que avoir le soutien de Gianni Infantino soit forcément un avantage pour un candidat, parce que la FIFA également, en termes de clarté de gouvernance, n'est pas toujours très, très exemplaire. Donc je pense que Gianni Infantino veut jouer un rôle. Il ne faut pas oublier non plus que pendant 6 mois, sa secrétaire générale, Fatma Samoura, a été envoyée au Caire pour une mission d'audit. C'était aussi une façon peut-être de prendre certains renseignements sur le fonctionnement de la CAF. Gianni Infantino n'avait pas aimé que le comité exécutif de la CAF mette fin assez prématurément à cette mission, ce qui a tendu les relations entre Ahmad Ahmad et Infantino. Il faut oublier qu'ils étaient très proches. Et Infantino avait soutenu Ahmad parce qu'il pensait peut-être pouvoir le contrôler en 2017 face à Yatou. Et finalement, Infantino n'a pas vraiment pu contrôler Ahmad et donc la CAF comme il l'entendait. Donc oui, la FIFA aura un rôle à jouer lors de cette élection. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de connaître tous les programmes des candidats. Faut pas aussi perdre de vue là.
Les programmes des candidats, pour l'instant, on n'en entend pas parler. Et c'est justement là où le bas blesse, non, J.Rémy-Gonin.
Oui, Alain, première des choses, c'est quand même terrible parce que la première chose, la règle d'or d'une élection, c'est l'équité. Or, on se rend compte qu'en matière d'équité, il n'y en a pas concernant cette élection et concernant surtout les méthodes qui sont utilisées dans la mesure où tous les candidats devraient avoir un top départ. C'est comme une course. On ne peut pas dire que certains ont la possibilité de faire maintenant la course et d'autres doivent attendre qu'on décide quelque part s'ils peuvent participer à la course. Et résultat, qu'est-ce qu'on va voir? Certains auront déjà 10 mètres d'avance, et lorsqu'ils seront presque à la ligne d'arrivée, on va dire à certains autres que, bon, en fait, votre dossier soit a été validé, soit invalidé. Donc, du coup, ceux même qui sont actuellement dans l'antichambre de la compétition ne peuvent pas dérouler leur programme. Et ceux qui sont déjà pratiquement sur la ligne de départ n'ont pas aussi présenté de programme. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que le monde est devant une situation qu'on appelle la COVID-19. Il n'y a donc pas de possibilité de pouvoir se déplacer. Il n'y a pas de possibilité de faire un certain nombre de choses de telle sorte que partout ailleurs, on a vu des choses, des élections, des compétitions qui ont été reportées. Comment se peut-il qu'en Afrique, en ce moment, où par exemple pour aller d'un pays à un autre, on n'a pas d'avion, qu'on dise que, bon écoutez, il y aura une élection alors qu'on sait que cela doit entraîner ce qu'on appelle le lobbying. Et le lobbying, ça se fait avec des déplacements. Il faut aller de fédération en fédération pour...
Il faut battre campagne.
Pour battre campagne. On ne peut pas battre campagne actuellement. Mais subitement, on dit aux gens, il y aura une élection. Pour moi, en toute honnêteté, cette élection devrait être renvoyée aussi bien que les compétitions ont été renvoyées ailleurs. Il faut rappeler que le continent africain, c'est 30,5 millions de kilomètres carrés qu'il faut parcourir. Le continent africain, c'est 54 fédérations. Donc, c'est le plus grand continent qui fournit de la matière au niveau de ce qu'on peut appeler le football mondial. On ne peut donc pas organiser une élection à l'emporte-pièce juste parce qu'on sait déjà d'avance à peu près ceux qui devraient être élus. La compétition se passe entre deux candidats d'Ahmad Ahmad. Ce néocolonialisme, ce visage de l'impérialisme, c'est cette affaire qu'on vient toujours montrer aux Africains ce qu'ils doivent faire. Cette façon de vouloir nous réduire à des positions biberonnantes, infantilisantes, ce sont des choses que nous devons dénoncer.
On va revenir à vous dans un instant, Jupon Rémy Gonon, à cette idée du report des élections qui circule de plus en plus puisque les conditions semblent pas vraiment réunies et Jupon vient d'énumérer quelques raisons. Philippe Doucet, que pensez-vous à cela? Est-ce possible? Est-ce envisageable?
On peut tout envisager, mais je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, la CAF n'est pas dirigée. Il y avait un président transitoire, M. Omari, qui lui-même peut encourir une suspension du même type que celle de M. Ahmad. M. Ahmad a été libéré momentanément de sa suspension. Il a repris le pouvoir, mais on a bien compris à Yaoundé, et d'ailleurs le...
Qu'il n'avait pas le pouvoir, il n'avait rien du tout.
Mais exactement, on a bien vu que son comex à Yaoundé lui a bien signifié que... Ils l'ont renvoyé en quelque sorte à la commission d'éthique de la FIFA, ce qui est encore qui est le pire évidemment châtiment qu'ils pouvaient lui faire. Donc aucun respect n'a été rendu à ce président. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas réellement de direction à la CAF. Je trouve que dans cette période où parallèlement il n'y a plus d'argent dans les caisses, enfin on ne sait pas parce que les comptes ne sont plus apparus depuis 3 ans. Ça c'est une preuve de excellente gestion de la part de la CAF. Il n'y a pas de compte depuis 3 ans. Pas de compte officiel depuis 3 ans. On sait qu'il n'y a plus beaucoup d'argent et qu'il n'y a plus de contrat télé. Je trouve que ce serait rendre très très mauvais service à la CAF que de dire « bon, ben, on peut reporter les élections et attendre ». Non, on ne peut plus attendre. Il est grand temps que la CAF soit réellement dirigée.
Oui, mais en même temps, si c'est pour aller au scrutin, si c'est pour aller au scrutin pour que dans 6 mois il y ait un autre scandale et qu'on reparte encore à des élections, peut-être qu'il faudrait réfléchir et remettre la balle au centre, pour utiliser un terme journalistique, pour que l'on reparte dans des élections où tout le monde part en même temps et où les règles sont claires, non?
Oui, mais quelque part, aujourd'hui, tout est troublé. Le calendrier, il est troublé, c'est vrai. Mais on pourrait aussi faire les élections en visio. Je ne suis pas certain que battre campagne, tel qu'on le considère dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire qu'en gros, il faut aller voir les ministres, parce que c'est les présidents de la République, des grands connaisseurs de foot, la plupart du temps, on le sait bien. Ce sont les présidents de la République qui vont décider pour qui il faut voter. Franchement, si cette partie de l'élection est annulée, parce qu'effectivement, on ne peut pas voyager... Et tout ça est en vote électronique, je crois que c'est pas un drame pour l'Afrique. Au contraire, hein. Il y avait moins de politique, peut-être que l'élection se passerait beaucoup mieux et qu'on pourrait davantage parler justement des programmes et de ce qu'il faut faire pour le football.
Mais
pas
à 3 semaines,
que les politiques soient les mieux placées.
À 3 semaines, on ne parle pas encore de programme, donc je ne sais pas à quel moment ils vont pouvoir parler de ce programme. Moi, Dalgis, les élections se dérouleront au Maroc. Pensez-vous que ce soit envisageable, un report, ou vous trouvez que c'est normal qu'on peut aller aux élections dans la situation actuelle?
Moi, je répondrai tout simplement d'un point de vue juridique. Mm-hmm. C'est-à-dire, au lendemain du 12 mars, il y aura une vacance du pouvoir au niveau de la CAF. Et donc, il est
c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui, non?
Non, mais il y a quand même un président qui a été rétabli dans ses droits de présidence par le tribunal administratif du sport.
Virtuellement.
Il y a des décisions qui peuvent être prises actuellement. Il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau du comité d'urgence, au niveau éventuellement d'un comité exécutif si jamais il se réunissait. Il n'y a pas de vacances de pouvoir à proprement dit aujourd'hui. On pourrait dire il n'y a pas ce pouvoir apparent, mais il y a un pouvoir qui est là, qui est juridiquement valable. Alors imaginez qu'au lendemain du 12 mars, il y ait une vacance et qu'il faudrait éventuellement prendre des décisions qui soient importantes, qui impactent l'avenir du football africain. Comment pourrait-on gérer ces situations? Moi, je pense que par rapport au déplacement, bien sûr, vous avez bien fait de parler des conditions difficiles avec le Covid, mais j'ai pu moi-même suivre des contacts, des réunions par visio. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas, bien sûr, le même impact qu'une visite à proprement parler d'un confrère président, mais qui peut se substituer en partie. Mais il y a eu aussi ces derniers temps, un certain nombre de compétitions, le CHAN, où j'ai vu beaucoup de présidents parler, discuter de candidats, parler, discuter avec d'autres candidats. Mais aussi, il y a la CAN U20 en ce moment même
en Mauritanie,
où il y a déjà 12 équipes, donc ça fait au moins pratiquement 12 présidents, mais aussi les présidents qui sont membres du comité d'organisation. Donc je pense qu'il y a pas mal d'opportunités à saisir.
Mais en même temps, quand on vous dit que les candidats ne sont pas partis en même temps, que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans cette bataille-là, du point de vue juridique, ça ne vous dérange pas? Normalement, tout le monde devait savoir en même temps.
Si vous permettez, je voudrais revenir. J'ai un avis différent par rapport à ce que vous avez qualifié d'interventionnisme de la FIFA.
Justement, on va en parler.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, et vous avez quelqu'un a parlé, je pense que c'est Alexis a parlé de la CONMEBOL ou de l'UEFA. Il faut savoir que la CAF est dans une situation qui n'est pas enviée du tout. Et moi, personnellement, je pense, et de par mon vécu, c'est vrai qu'il n'a pas été long, mais qui a été très intéressant, parce que j'ai vécu des moments très forts et des moments d'intense activité. Ce que je peux vous dire, qu'aujourd'hui, l'intervention de la FIFA est même souhaitée, l'intervention, parce que la CAF, on pourrait même demain lui prévaloir ne pas intervenir, parce que la CAF aujourd'hui est dans une situation qui n'est pas enviée. La CAF, par rapport aux autres confédérations, est dans une situation où le gap est devenu très important. Il s'est creusé même, où Philippe a parlé d'une situation financière avec une rupture d'un contrat qui
celui de Lagardère,
pour ne pas le citer. Donc aujourd'hui, moi je dirais, c'est comme si c'était, je dirais pas juste un malade, mais un malade et un médecin qui est celui de la FIFA, qui est obligé aujourd'hui de venir. Mais
lorsqu'on vous entend, on se dit, cela veut dire que les Africains ont été incapables de gérer la CAF tellement qu'il faille aller chercher quelqu'un ailleurs pour venir gérer la CAF parce qu'on est incapable de le faire?
C'est pas ça.
Mais alors comment expliquer ça?
Mais aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple concret de la mission de la FIFA. Qui a été faite pendant 6 mois. Je peux vous dire, en connaissance de cause, que bien sûr, je parle d'un point de vue purement administratif, je ne suis pas politique, d'un point de vue purement administratif, j'en ai l'occasion de parler sur un forum avec Philippe tout dernièrement. Ça a été, en termes de progrès, de gouvernance et d'un certain de process et tout ça, c'était très, 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 très bénéfique pour la CAF.
On va en parler dans la seconde partie de ce magazine, puisqu'on arrive au terme de la première partie du débat africain. Je souhaiterais que l'on évoque justement cette présence de la FIFA à l'intérieur, qui devrait peut-être être mieux expliquée, parce qu'on ne comprend pas comment la CAF peut exister et que c'est la FIFA qui vient gérer la CAF. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute, on se retrouve très vite.
Le débat africain à Alain Foucault.
De quoi souffre la CAF, la Confédération africaine de football? Comment la réorganiser pour qu'elle devienne un outil à la hauteur des talents dont l'Afrique regorge et que cesse le seul trafic des muscles? Si tout le monde est d'accord pour dire qu'une restructuration s'impose, est-ce à la FIFA de le faire? Dans quel intérêt? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la future élection du président de la CAF, la Confédération africaine de football, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord Philippe Doucet, journaliste sportif très connu en France et en Afrique, sur Canal Plus notamment. Notre second invité est un autre confrère, bien connu sur notre antenne, J. Rémy Ngono, chroniqueur sportif que l'on retrouve régulièrement sur notre antenne. Troisième invité, toujours en direct de Paris, Alexis Biébo, qui est journaliste sportif. Il vient de commettre un article dans le quotidien Le Monde consacré justement à la CAF. Et notre quatrième invité est en direct de Ouagadougou au Maroc. Mouadadji est l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football et coordinateur général de la Fédération marocaine de football. Voilà pour nos invités. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant l'ingérence de la FIFA au sein de la CAF. Mouadadji disait, ils nous ont rendu service. Si la FIFA n'était pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je veux dire, la CAF serait encore beaucoup plus malade. Que répondez-vous à cela, Philippe Doucet?
Oui, non, mais je connais effectivement la thèse de Mouadadji et elle est très intéressante parce que elle rappelle qu'il y avait quand même, sur le plan administratif, il y a eu des lacunes dans le dernier mandat de la CAF, et il y en avait avant aussi, hein, il faut le reconnaître, mais je crois que la confusion a été encore plus extrême dans le dernier mandat. Il y a eu des lacunes telles et des telles difficultés qu'il a fallu que la FIFA intervienne. Et ça, je crois que l'Afrique, là-dessus en tout cas, a tort de mettre un débat, de mettre l'ego en avant. Ça, je crois que c'est une erreur. Par contre, il y a un deuxième chapitre qui est complètement différent. C'est celui qu'on aborde aujourd'hui, c'est celui des élections. Là, oui, je comprends très bien, je comprends complètement la thèse africaine. Là, il n'est pas normal qu'il y ait une influence de la FIFA. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'elle n'ait pas d'influence alors qu'elle peut verser à travers des mécanismes, elle peut donner 1,5 million de dollars à chaque association, donc chaque pays, chaque fédération, chaque année, alors que la CAF, aujourd'hui ayant des finances exsangues, quelque part, a perdu énormément de son influence forcément sur toutes ces fédérations. Donc quelque part, c'est un pouvoir financier qui a perdu la CAF parce que ses réserves ont fondu. Et aujourd'hui, quelque part, ce que vous allez reprocher à la FIFA, c'est de profiter en fait d'une situation où la CAF est en difficulté financière. Ça, c'est une réalité. Elle ne devrait pas être influente, la FIFA. Je suis complètement d'accord sur le principe, mais j'ai du mal à imaginer qu'elle ne le soit pas parce qu'il... Les présidents de fédération, ils perçoivent très très bien le bénéfice qu'ils peuvent avoir en quelque part, disons, en acceptant que la FIFA ait quelque influence. Voilà, en gros, les enjeux sont là. Hein.
Alexis Biébo.
Oui, alors, que la FIFA accompagne l'Afrique sur certains projets, des projets de développement, qu'elle verse des subventions à condition que l'argent soit bien utilisé. Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois que d'ailleurs, depuis que M. Infantino a été élu, l'argent versé par les FIFA pour des programmes de développement est un peu mieux. Enfin, il y a un suivi, il y a une traçabilité, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc, que la FIFA puisse accompagner, conseiller la Confédération africaine de football sur différents thèmes, la gestion administrative, la gestion financière, oui, pourquoi pas. Maintenant, je suis d'accord avec Philippe dans le sens où je trouve qu'elle se mêle de trop près de l'élection en elle-même. Et quelque part, je trouve ça assez étonnant. Donc, je peux comprendre que cela puisse choquer les acteurs du football africain, mais c'est aussi parce que en Afrique, on laisse peut-être un peu trop le champ libre à la FIFA. On la laisse peut-être un peu trop libre de ses mouvements.
Oui, mais là, tout à l'heure, à l'instant même, Philippe disait, c'est parce que c'est elle qui a de l'argent et que finalement, on n'a pas moyen de tenir un peu la FIFA sur place. Que dites-vous à cela? C'est-à-dire celui qui paye commande.
Oui, bah c'est, oui, voilà, il y a beaucoup de fédérations qui sont en difficulté en Afrique. Il ne faut pas oublier que la majeure partie des fédérations ne vivent que grâce aux subventions étatiques. Alors je mets de côté certains pays dont les fédérations sont très bien gérées et autonomes financièrement, je pense notamment à celle du Maroc,
par exemple,
qui est régulièrement citée en exemple parce que c'est une fédération qui fonctionne bien, qui a une vision sur l'avenir, mais dans beaucoup de pays subsahariens notamment, les fédérations ne vivent que parce que l'État leur donne de l'argent. Alors, quand la FIFA, évidemment, leur propose de l'argent pour des programmes de développement, $1,500,000, $2,000,000, $3,000,000, je ne sais pas exactement. Oui, forcément, c'est quelque chose qui...
J'ai envie de comprendre, éclairer un peu mon ignorance, et là je me tourne vers moi, Dadji. On dit souvent que la FIFA rapporte de l'argent, que la FIFA donne de l'argent. D'où vient cet argent? Est-ce de l'aide? Est-ce juste un appui ou bien c'est l'argent de tout le monde finalement, de toutes les fédérations du monde?
On peut les considérer des deux côtés. Ce que vous dites est tout à fait valable dans les deux sens, dans les deux définitions. Ce que je peux vous dire, là tout de suite, un exemple vivant, je suis là au stade de Noisy-Beau. C'est un stade qui a été financé entièrement par le FIFA pour Europe. Nous voyons aujourd'hui une canne, ce développement, une canne des jeunes, c'est-à-dire dans l'esprit même de ce FIFA pour Europe, une canne de développement, une canne U20, qui se déroule dans un stade aux normes, aux normes moyen plus, mais qui permettent aujourd'hui à des nations comme la Mauritanie d'organiser des tournois, des cannes. C'est ce qui fera aujourd'hui que ces nations puissent se rapprocher du peloton dont vous avez cité certaines fédérations qui sont plus ou moins financièrement...
bien gérées.
Je dirais pas... Oui, bien gérées, et qui sont financièrement à l'aise. Aujourd'hui, ces fonds FIFA pour autres, quand elles sont bien gérées, je suis du même avis, je ne sais pas qui l'a dit, mais elles sont de mieux en mieux gérées, de mieux en mieux cadrées. J'ai eu l'occasion, quand j'étais au niveau de la gestion, à la tête de la gestion administrative de la CAF, de faire pas mal de réunions, et de mettre déjà au niveau de la CAF un département qui suit exactement ces fonds FIFA pour Europe, que ce soit au niveau des zones, des associations, mais aussi au niveau de la CAF. Mais ces fonds sont gérés de mieux en mieux, on comprend mieux les dispositifs, les process sont mieux définis. Et à la finalité, si tous ces critères sont bien respectés, nous pouvons voir de visu des impacts très important, ce stade de Noisy-Beau aujourd'hui. Une capitale où des jeunes, je suis venu il y a 2 ou 3 jours, et il y avait plein de jeunes qui pouvaient s'entraîner sur le terrain. On voit l'utilité de ces fonds qui sont très importants au niveau de l'Afrique.
Mais lorsqu'on écoute le Marocain que vous êtes, et puisque vous êtes encore coordinateur général de la Fédération Royale Marocaine de Football, on se dit, c'est quand même étonnant que vous soyez en train de dire c'est les autres qui peuvent venir permettre à l'Afrique de le faire. Les Africains le vivent un peu comme, on va dire, du paternalisme à nouveau. Est-ce que ça ne pouvait pas être organisé, comme par exemple c'est organisé au Maroc, sans avoir besoin des autres, sans qu'on aille chercher la FIFA pour ça? C'est quand même grave.
C'est pas grave.
Mais si, c'est très
réalité.
Grave.
C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a certaines fédérations qui ne vivent que des aides étatiques et aussi des aides du FIFA pour Europe. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui...
Normal que quelqu'un vienne d'ailleurs pour gérer la CAF? Vous trouvez ça normal?
Ils ne sont pas d'ailleurs. Excuse-moi Alain. Alain, il ne vient pas d'ailleurs. Il ne vient pas pour moi. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il ne vient pas d'ailleurs. Il vient du monde du football. C'est l'organisation fêtière du football mondial qui a l'obligation aujourd'hui d'aider ces petites fédérations et à ce que ce gap entre la Confédération africaine de football et les autres confédérations serait traité.
Oui, mais vous pensez cela faisable en Europe, vous?
Mais l'Europe, on ne peut pas comparer, Alain.
Mais il va bien falloir à un moment donné qu'on l'on compare, c'est-à-dire que l'on dise qu'il y a des compétences sur le continent. Est-ce que vous imaginez la FIFA venir aider la Fédération royale marocaine de football dans son développement?
On a mieux, Alain. Je ne sais pas si ça se dit, mais dernièrement, dans le cadre d'une coopération Sud-Sud, le Maroc a fait don de plus de $2 millions à la FERWAFA, la Fédération rwandaise de football,
absolument,
dans un esprit de solidarité. Donc, aujourd'hui, le Maroc, qui financièrement s'en tire pas mal, a pu développer cette idée, elle est première mondialement, de pouvoir céder ses droits, parce que je pense que c'est des droits, à la fédération rwandaise, dans le cadre, bien sûr, d'un process, d'un cahier de charge bien défini. Et on verra bientôt, ce sera une fierté pour l'Afrique aujourd'hui.
Justement, vous mettez le doigt sur la question.
Au point de départ, c'était une aide internationale de la FIFA, qui est devenue par la suite une aide, une coopération Sud-Sud, purement...
Justement, je voudrais qu'on parle de coopération Sud-Sud, mais lorsque vous dites que le Nord a besoin forcément de mettre la main là-dedans et que la FIFA fait partie de l'ensemble, on se dit, est-ce que ça peut arriver en Europe? Non. Alors, est-ce qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes cette fédération, cette confédération africaine de football, sans les autres, avec par exemple l'expérience que le Maroc a? Là, je me tourne cette fois-ci vers J.Rémy Gonin.
Alain, d'abord, je voudrais te dire que lorsqu'on me parle de l'expertise qu'apporte la FIFA, c'est quelle expertise? Lorsque vous avez, par exemple, Fatma Samoura, on sait quand même qu'elle a passé 21 ans à s'occuper du programme alimentaire de l'ONU. Aucune expérience dans les organisations sportives ou même sponsoring. Et quand elle arrive,
Mais elle a fait du beau travail. Hein. Elle n'a pas besoin d'être du monde du foot pour faire du bon travail.
C'est ce qu'on vous dit. Parce que le travail qu'elle a fait est aussi très, très dangereux dans la mesure où, pour la première fois, on a quand même vu un match se rejouer, se faire rejouer juste parce qu'elle avait une influence. C'est-à-dire que la FIFA a fait rejouer un match de Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Il faut rappeler que ce match s'est joué 10 mois après la victoire de l'Afrique du Sud sur le Sénégal en vue de la Coupe du Monde 2018. Et on s'est dit quand même que comment est-ce que la FIFA a pu commettre un tel impair, puisque dans la vie et dans toutes les organisations, on n'a jamais vu un match se faire rejouer sous prétexte qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Mais parce que Fatma était là, elle a voulu favoriser son pays. Or, l'article 15, alinéa 6 du règlement de la Coupe du Monde de la FIFA stipule que la décision de l'arbitre sur des fautes de jeu ne peuvent jamais faire l'objet d'aucune réclamation. La décision du bureau de qualification de la Coupe du Monde est entachée d'un certain nombre de décisions qu'on ne peut pas revenir. Vous avez vu par exemple en Europe, parce que justement vous en avez parlé, lorsque le but de Thierry Henry de la main est marqué par la France se qualifie contre l'Irlande, face à l'Irlande, le 18 novembre 2009, je crois, mais jamais la FIFA a demandé que ce match soit rejoué.
Qu'est-ce que vous essayez de dire, Jipoin Remigono, en filigrane?
Je suis en train de dire que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, eh bien, c'est là où la FIFA invente des lois et des règles qui n'existent pas. Et que même ce qu'on prétend dire comme étant des compétences parce qu'ils viennent enseigner quelque chose à l'Afrique, il n'y en a pas. Vous parlez actuellement de la Confédération africaine de football qui est malade. Mais la première corruption est venue de la FIFA. Infantino fait quand même lui-même actuellement, il y a des poursuites, il y a des enquêtes contre Infantino. Pourquoi est-ce que Infantino n'est pas encore suspendu? Il laisse les plaintes contre lui et il vient directement installer sa main de commandement au niveau de la Confédération africaine de football. C'est pour ça que je voudrais dire que on ne peut pas continuer à dire que nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Et subitement, les gens sont en train de nous dire que non, parce que la FIFA vient nous donner des gratuités, des aumônes, je ne sais pas à combien ça s'élève, encore que c'est un autre réseau de corruption pour permettre aux Africains de soutenir certains qui sont, qui squattent au niveau de la FIFA. J'ai dit aujourd'hui, les élections au niveau de la Confédération africaine de football sont terriblement influencées par la FIFA. Tout le football africain est influencé par la FIFA. En Amérique du Sud, on ne va pas voir de tels comportements.
Oui, mais dans le même temps, on vous dit, comme vient de le dire, le mentionner moi tout à l'heure, et même Philippe Doucet, que la CAF est celle qui est la plus mal gérée et qu'il y a besoin, à un moment donné, d'y mettre de l'ordre.
Mais si tu dis que la CAF est la plus mal gérée, je peux te dire que c'est archi faux. La CAF était un peu rudimentaire. Mmh. Mais la CAF a réussi à faire qu'elle devienne de plus en plus une bonne structure et d'ailleurs qui a commencé à produire de l'argent. Sachez quand même que la CAN n'était pas d'abord rentable et n'était même pas visible. Or, depuis 2012, lorsqu'on regarde par exemple ce qu'on appelle les audiences cumulées, la CAN 2012, elle seule, et faisait déjà 5 milliards de téléspectateurs, c'est-à-dire qu'elle est allée au-dessus de la Copa América. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télévision européennes. Ils veulent bien prendre la CAN. Il y a des annonceurs qui arrivent. C'est pour ça que je dis que la CAN, certes, connaît des erreurs humaines, mais il y a de la matière première, c'est-à-dire qu'il y a des intellectuels africains, il y a des dirigeants africains, il y a des personnalités qui peuvent bien gérer cette CAN. On n'a pas besoin que Gianni Infantino vienne avec quelqu'un qui est huilé dans une maison de la FIFA et qui arrive subitement en Afrique et subitement on découvre qu'elle gère très très bien alors qu'elle était dans ce qu'on appelle les trucs, les programmes humanitaires.
Alors, moi, Dadji va vous répondre là-dessus puisque lui, il vit la CAF de l'intérieur, il a vécu de l'intérieur. Que répondez-vous à cela? Que nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour relever cette CAF?
Tout à fait, moi je me mets tout à fait en faux par rapport à ce qui a été dit, puisque de par mon expérience, je ne peux parler que de mon expérience, et je vais vous donner un exemple très précis, qui est connu de tous aujourd'hui, parce qu'il a impacté tous les officiels de la Confédération africaine de football. En fait, c'est le traitement espèce. Quand j'arrive à la CAF, en avril 2019, on me faisait signer chaque semaine des milliers de dollars à faire, qu'on retirait de la banque, et tous les traitements se faisaient en espèces. La première fois que je rencontre Fatma Samoura en Égypte, dans le cadre de la mission, je lui en parle très ouvertement, elle me donne tout son support, et je sais de quoi je parle, tout son support. On décide d'un commun accord de faire un mail, et on était en mois de juillet, c'est juste avant la CAN en Égypte, on décide d'arrêter tout le traitement en espèces et tout ce que ça implique à partir de septembre. Et croyez-moi que s'il n'y avait pas la force de la FIFA, la force de Fatma Samoura, ce process de passer de l'espèce à des virements traçables n'aurait jamais pu se faire.
Mais on a l'impression un peu de rêver, hein, que c'est, on est sur Mars un peu, puisque dans la plupart des entreprises, les espèces ont disparu, même en Afrique, dans beaucoup d'entreprises. Donc, on est sur quelle galaxie lorsque l'on est à la CAF? On a l'impression qu'on parle d'un autre monde.
Oui. Donc, c'est un petit par rapport. Moi, je peux vous dire, je peux vous assurer que l'expertise de Fatma, mais pas, moi, je ne voulais pas personnaliser, je parlais de l'expertise de tous les experts qui nous ont été mis à disposition au niveau de la CAF. Pendant 6 mois, ont été d'un effet bénéfique, et je vous parle encore d'un point de vue purement administratif. Je ne veux pas parler de politique. Je peux témoigner sur le côté purement administratif. Ça a été très, très bénéfique à la CAF, surtout le volet financier. Je vous donne un exemple. La traçabilité de toutes les transactions financières. Quand j'arrive à la CAF, ils avaient un retard de pratiquement un an et demi, ce qui a été relevé dans le rapport de PwC. C'est-à-dire que vous faites une transaction, normalement, dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit, elle doit être mise sur le système informatique pour pouvoir le tracer par rapport aux différents comptes bancaires. Ben, croyez-moi qu'il y avait un retard de un an et demi par rapport à tout ça. Donc, on ne pouvait pas suivre.
Mais Mouad, vous êtes gestionnaire et vous connaissez bien cette maison donc, que vous décrivez. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller chercher la FIFA pour ça? Est-ce qu'un cabinet ou, je ne sais pas moi, une structure plus élaborée n'aurait pas pu gérer ça pour que les gens n'aient pas le sentiment que ben, on a recolonisé la CAF, ce qui ne s'est pas passé ailleurs?
Bah, tout justement.
Ça ne se passe pas comme ça au Maroc, par exemple.
Carrément gratuite, c'est de l'expertise carrément gratuite, mise à disposition par la FIFA. Moi, personnellement, je ne vois pas où est le mal à ce que la FIFA, aujourd'hui, puisse venir mettre à la disposition de l'expertise gratuite. Et dans le domaine purement footballistique, on sait aujourd'hui combien nous coûte un cabinet de consulting, un cabinet pour la mise en place de process. Tout ça coûte énormément d'argent. À un moment où la CAF doit vraiment faire très attention à ses dépenses.
À ses dépenses. Alors là, je me tourne vers Biebo pour lui poser la question. Là, on dit l'aide de la FIFA est désintéressée. Est-elle vraiment désintéressée? Certains disent que c'est parce qu'on veut avoir des électeurs pour les futures élections à la FIFA.
On va avoir des preuves pour ça. Mais voilà, on m'a dit qu'en 2017, c'est encore une fois, plusieurs interlocuteurs qui ne se connaissent pas forcément. Bon, on encourageait peut-être certaines fédérations à voter pour tel candidat avec l'assurance de recevoir rapidement de l'argent pour un programme de développement. Maintenant, moi, j'ai pas de preuves écrites, bien évidemment. Mais si des dirigeants africains ont saisi une commission de la FIFA, je ne sais plus laquelle, pour s'émouvoir de ces pratiques, et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, encore une fois, que la FIFA puisse, comme le dit moi très, très justement, que la FIFA puisse accompagner, conseiller la CAF pour une meilleure gestion financière, pour plus de transparence, pour une meilleure traçabilité de l'argent, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas non plus que ce soit un prétexte pour renforcer son pouvoir sur la CAF.
Alors, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, puisque le temps tourne vite. La discussion se poursuit, hein, puisque les réseaux sociaux sont inondés de ces questions et que tout le monde regarde vers la CAF pour voir ce qui va se passer le 12 mars. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en parler dans le débat africain. Bon courage à vous. Et le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Géopolitique, le débat.
La fièvre sur les prix des matières premières agricoles démarre.